France Inter, le 18-20.
J'allais commencer cette émission en disant la séquence est finie, qu'est-ce qui va en rester? La fameuse séquence propre, très très relâchée devant des étudiants. Et puis la sortie d'Alain Juppé aujourd'hui prouve bien que non, les queues de comètes sont parfois ravageuses, vulgarité extrême, lamentable, dévastateur, etc. etc. Mais qu'elle est douloureuse donc pour les Républicains. Cette séquence a l'air qui va devoir donc compter ses abattis avant la bataille, et Dieu sait qu'ils sont éparpillés. La bataille, c'est celle pour le titre d'opposant à droite à Emmanuel Macron. Et au passage, de quel type d'opposition parle-t-on? Les Républicains sont tellement parasités par leur propre bataille au pluriel que les idées de fond ont du mal à passer. Les tentatives autour du pouvoir d'achat, on y reviendra, ou de la loi asile et immigration ont si peu porté, ou en tout cas pour l'instant, qu'on se souvient à peine de ces propositions. En revanche, on sait que Dominique Bussereau et Fabienne Keller ont quitté le parti. On sait aussi que quelques voix se resserrent autour de Valérie Pécresse et de son mouvement libre, avec un point d'exclamation qui pourrait bien être l'asile politique, à les savoir, de ceux qui veulent prendre de la distance avec Laurent Wauquiez. Et en parlant de distance, le Front National n'est jamais bien loin. Il pourrait en profiter pour avancer ses pions, mais là aussi, la refondation n'en finit pas de se refondre et personne n'est réellement audible. Pas Marine Le Pen en tout cas, à faune depuis les présidentielles, pendant que sa nièce, elle, fait son show à Washington. Bref, LR et le FN jouent au chat et à la souris et chacun cherche sa droite. On en parle ce soir.
Fabienne Saintès. Le téléphone sonne.
Et c'est vous qui commencez, Stéphane, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Soyez le bienvenu sur Inter, on vous écoute.
Oui, bonsoir, merci, comme on vous le dit souvent pour vos émissions. Oui, je m'interroge sur la stratégie politique de Laurent Wauquiez, en fait. Alors, peut-être qu'il l'admettra jamais, puisque on parle souvent de bullshit, mais dans la surenchère à l'outrance à laquelle on assiste depuis quelques années, que ce soit du côté de l'extrême droite, mais aussi du côté de l'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon, je me demande et je m'interroge si, finalement, sa stratégie, ça ne consiste pas à justement monter davantage dans l'outrance pour rassembler autour de ça. Finalement, ce serait une forme, si je m'interroge, de trumpisation de la vie politique, vu les résultats qu'a obtenu Trump outre-Atlantique. Est-ce que c'est pas finalement la même chose qu'il est en train d'essayer de faire en France?
Allez, est-ce que l'outrance est une stratégie? Merci beaucoup Stéphane pour cette question et ce démarrage donc de Téléphone Sonne grâce à vous. Pour vous répondre ce soir et pour débattre ensemble jusqu'à 20h, Françoise Fressoz est là, bonsoir.
Bonsoir.
Éditorialiste au Monde, Jérôme Jaffray également, politologue, directeur du CECOP, bonsoir.
Bonsoir.
Et Gaël Sliman, président cofondateur de l'Institut de sondage Odoxa.
Bonsoir.
Estelle Schmitt avec nous, qui s'occupe de la droite, notamment au service politique de France Inter. Françoise Fressoz, on commence avec vous. Est-ce que l'outrance est une stratégie pour Laurent Wauquiez?
En règle générale, je pense que oui, ça fait partie de la stratégie de Laurent Wauquiez et ça date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a certainement dans son analyse l'idée que pour récupérer une partie de l'électorat, il faut se démarquer du politiquement correct. Mais moi, j'isole cette stratégie de ce qu'il a dit aux étudiants dans un soi-disant off. Là, je pense qu'il a dérapé. Et je pense que c'est à un autre élément de sa personnalité, ça renvoie. C'est quelqu'un qui clive très profondément et qui a toujours, pour progresser, besoin d'avoir des ennemis. Et ça, je l'avais constaté déjà lorsqu'il était au gouvernement de Nicolas Sarkozy. Tout le monde détestait Laurent Wauquiez. Il a l'art de se faire détester. C'est-à-dire qu'il faut qu'il dise du mal de tout le monde. Et je pense que là, c'est une vraie faiblesse psychologique parce que ça l'empêche d'être chef. Donc, il y a à la fois certainement une stratégie de faire l'outrance et d'aller récupérer un électorat qui a été perdu. Et puis, il y a parallèlement une difficulté personnelle de Laurent Wauquiez à rassembler. Et je pense que là, on a assisté à une vraie boulette de sa part.
Et on va y revenir. Jérôme Jaffray, tout le monde le déteste, mais il adore qu'on le déteste. Ça a l'air compliqué dans la tête de Laurent Wauquiez en ce moment.
Écoutez, c'est pas bien porté de défendre Laurent Wauquiez, alors il faut s'y essayer.
Allez-y.
Quand même un petit peu, pour ne serait-ce que pour le débat. Moi, je crois qu'il y a une stratégie de long terme quand même dans tout ça, et qu'évidemment, il n'y a rien d'innocent. Hein. Demander à des étudiants...
Même pas ce qu'il a dit devant les étudiants.
Oui, ben oui, demander à des étudiants, un collectif d'étudiants présents devant vous, de garder la confidentialité de vos propos, ça n'a pas grand sens.
Il suffit de
c'est même presque une invitation à enregistrer les 10 propos quand vous commencez comme ça. Hein. Non, il me semble, si vous voulez, que chez Laurent Wauquiez, il y a l'idée d'abord de s'installer comme un des grands leaders politiques du pays. Parce que si Wauquiez, il n'avait tenu que des propos de guimauve, il n'est toujours pas un leader important dans le pays. Alors maintenant, on le
mais
déteste.
Attendez, pardon, ça en fait un leader
Oui, ça en fait un leader. Ça en fait un leader qui existe dans le pays, il compte. Alors, montée de la détestation, je pense que Gaël Sliman nous en parlera dans un instant, incontestablement, mais la détestation, éventuellement, ça n'est qu'une phase dans la relation que les Français ont avec les leaders politiques. Si vous existez, si vous êtes un grand leader, ça veut dire que maintenant, toutes les interventions de Laurent Wauquiez qui vont venir, elles vont être écoutées. Et ça, c'est un immense changement. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure à propos de Marine Le Pen, par exemple, totalement inaudible depuis la présidentielle, les leaders politiques, dans leur grande masse, sont inaudibles. Eh bien, Laurent Wauquiez, on va prêter attention à ce qu'il va dire. Et de ce point de vue, il enregistre, me semble-t-il, un bénéfice de long terme.
Donc, qu'on t'aime ou qu'on te blâme, l'important, c'est la réclame. En gros.
En gros, vous le dites bien.
Et ben voilà, on l'utilisera comme slogan. Gaël Sliman, on y a fait allusion à l'instant. C'est vrai que la détestation de Laurent Wauquiez, c'est quelque chose qui se retrouve, et qui se dit, et qui s'écrit même dans les sondages.
Alors, c'est quelque chose qui se mesure. Je ne veux pas trop le dévoiler, mais on sortira ensemble notre baromètre politique, avec France Inter notamment, dès demain matin. Un chiffre quand même, ou un élément de tendance, en l'espace de 4 mois, entre novembre dernier et ce mois de février, Laurent Wauquiez a réalisé la performance de baisser en termes de cote d'adhésion, stagner dirais-je, augmenter en termes de cote de rejet. On est aujourd'hui sur la deuxième personnalité politique la plus rejetée en France, juste derrière Marine Le Pen. Et
avec un plus 10
avec
en plus,
c'est ça qui est très avec un plus 10 en rejet après ses propos, et surtout auprès de son noyau dur électoral, parce que je veux bien qu'on cherche à exister, à faire parler de soi, à ce que les médias vous écoutent, mais il y a l'impopularité ponctuelle, et puis il y a les marqueurs durables. En l'occurrence, être un leader politique qui représente le premier parti d'opposition aujourd'hui en France, et qui n'est pas parvenu à gagner des points auprès des sympathisants LR en l'espace de 4 mois, entre l'avant investiture et aujourd'hui, c'est un vrai problème. Il est 8 points en termes de cote d'adhésion derrière son niveau de novembre aujourd'hui, alors qu'il était méconnu d'une large partie des sympathisants de droite. Donc, outre l'impopularité, le problème qui se pose pour lui, c'est celui de marqueurs. Nicolas Sarkozy avait eu ses marqueurs, le bling-bling, le président des riches. D'une certaine manière, Laurent Wauquiez est en train de se constituer des marqueurs qui seront peut-être plus durables que l'impopularité ponctuelle que nous mesurons aujourd'hui.
Estelle Schmitt, pour finir ce tour de table, vous qui les voyez, les militants LR, ils en disent quoi?
Alors justement, ils ont l'impression de l'intérieur que Laurent Wauquiez, finalement, ce qu'il a dit, c'est pas très choquant, à part les propos sur Nicolas Sarkozy, qui là, vraiment, ils étaient pas d'accord avec eux. Et d'abord, ils ont jugé sévèrement ses propos, mais plus sur la forme que sur le fond. Alors, dans l'entourage de Laurent Wauquiez, on explique que c'est parce qu'il a voulu parler jeune, il était face à un public de jeunes. Et finalement, une semaine après, le bilan, ce serait qu'il aurait solidifié son électorat, que les gens adhèrent, et que c'est plus politiquement positif pour Laurent Wauquiez, cet épisode-là, que négatif. Alors, il faut attendre un petit peu, effectivement.
Jérôme Jaffray, juste pour un mot, puis on retourne au standard.
Oui, ce qu'il faut aussi comprendre dans ce qu'a fait Laurent Wauquiez, c'est qu'il s'est différencié des autres leaders politiques. Macron, c'est son adversaire, il l'a dépeint, une dictature totale en France, a-t-il osé dire. C'est complètement délirant, évidemment. Mais au moins, ça marque. Complicité des médias avec Macron, ça intéresse les militants, les électeurs de la droite non ralliés à Macron. Ils disent qu'effectivement, il y a un parfum des médias qui est extrêmement favorable au président Macron. Sarkozy, c'est des propos invraisemblables qui ont été tenus à l'égard de Sarkozy. Mais au moins, c'est fini de considérer qu'il est l'héritier de Sarkozy, son porte-lance,
qui n'est rien du tout. S'excuser et que du coup, ça le met complètement porte-à-feu sur tout l'exercice.
Mais
parce qu'il dit, j'assume tout, sauf ce que j'ai dit vis-à-vis de Sarkozy. Donc,
mais malgré tout, on a compris que ça n'était plus l'homme de Sarkozy. Et d'ailleurs, ce que le Canard enchaîné a rapporté de ce que pensait Sarkozy de Wauquiez fait que on comprend ça. Et puis alors Juppé, qui a cramé la caisse à Bordeaux, dixit, et aujourd'hui Juppé lui répond foudrage. Mais au fond, le message de Wauquiez, c'est que notre droite, c'est pas celle d'Alain Juppé. C'est ça son message. Parce que Juppé est pratiquement rallié à Macron de fait, et qu'à ce moment-là, il n'y a pas de cadeau à lui faire. Tout ça, ça correspond
alors,
à une vraie stratégie.
La droite, donc, c'est pas celle de Nicolas Sarkozy, qui est descendu en flammes. C'est celle de Sarkozy,
il n'est pas l'homme de Sarkozy. C'est ça le sens de mon propos.
Je voudrais qu'on écoute Marin au 01 45 24 7000. Bonsoir, soyez le bienvenu Marin, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Je vous appelle du bar de Dauendorf, un petit village bucolique.
Ah bah super.
Et voilà.
Vous avez froid, en fait, Marin, peut-être?
Ah, je suis gelé là, voilà. Dans mon salon, il fait 15 degrés, dehors il fait moins 7.
Très bien.
C'est charmant.
Allez-y, allez, on vous écoute.
Voilà, bah, c'était simplement pour vous dire mon profond mécontentement, pardon, vis-à-vis du comportement de Laurent Wauquiez, des propos qu'il a tenus vis-à-vis d'Alain Juppé. Je trouve qu'aujourd'hui, dans une période de reconstruction de la droite, face à un Front National de plus en plus fort, et une extrême droite que je connais assez, vu que je m'intéresse un peu à ce que fait notamment Soral, Dieudonné, ce genre de personnes, je dis qu'on a aujourd'hui les dangers qui montent en France à ce niveau-là, et que la droite paraît, avec Macron bien sûr, comme le dernier rempart face à cette vision alternative de l'Europe, d'Europe des nations, etc., qui à mon sens me semble dangereuse dans un projet européen qui devient de plus en plus fédéral et qui est à mon sens également nécessaire. Et donc, je voulais simplement signaler que, vu que je suis également élève à la Bourgogne School of Business, donc école de commerce assez réputée, que notamment son intervention devant les élèves de l'EM Lyon, si je ne m'abuse, est absolument scandaleuse, vu que ce n'est pas le rôle d'un politique de demander à des élèves de garder la confidentialité et encore moins de tenir des propos comme il a tenu. Et donc, pour conclure, je dirais que sa stratégie de l'outrance, à mon sens, vu que je réalise actuellement un Master 2 en stratégie commerciale, sa stratégie ne sera absolument pas payante et l'avenir nous le dira.
Voilà. Bah écoutez, allez-y, finissez Marat.
Je tenais à vous remercier en même temps, vu que c'est la première fois que je passe à la radio. Je voulais juste vous remercier de la qualité de votre contenu et vous invite à continuer.
C'est gentil, avec un prénom comme le vôtre, je me souviendrai en fait de vous la prochaine fois et vous serez évidemment le bienvenu. Françoise Fressot, c'est un peu dans le sens que vous disiez effectivement.
Qu'il ait besoin de se différencier des autres leaders politiques. Il n'en a plus besoin. Il a été élu patron des Républicains. Il a eu un score assez bon, 74%. Il y a eu des militants qui ont voté. À un moment, on s'est dit, ça va être peut-être une secte. Non, c'est 100 000 adhérents qui ont quand même voté. Donc, il était installé. Et il était installé sur une trajectoire en plus qui était plutôt bonne, puisqu'il avait trouvé l'attaque du pouvoir d'achat. Et les Républicains étaient en train de faire des tracts. Et c'est le talon d'Achille aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est un certain nombre de retraités, d'ailleurs, qui sont des électeurs privilégiés de les Républicains, qui sont très mécontents. Donc, il pouvait commencer à dérouler ce qu'il a essayé de faire, c'est-à-dire agglomérer autour de lui des électeurs mécontents d'Emmanuel Macron, que ce soit des retraités, que ce soit l'électorat populaire, que ce soit l'électorat rural. Et donc, il avait toute cette thématique. Et tout d'un coup, il fait une sortie de route qui révèle, je pense, une fragilité personnelle. Et moi, j'en reste sur ma thèse, que je pense que c'est une boulette absolue et que ça lui a, d'une certaine façon, bousillé sa rentrée qui s'annonçait plutôt prometteuse.
Je vais le dire comme ça, Gaëlle Siman, pour compléter ce que dit Françoise Fressot. Est-ce qu'il n'y a pas un côté, finalement, assez immature, en fait, dans cette manière de parler devant les étudiants? Il y a une espèce de manière de rouler des mécaniques, finalement, parce qu'on est invité, parce qu'on est un homme politique de premier plan et qu'on est face à des étudiants qui vont boire vos paroles. Il n'y a pas finalement de ça derrière ces propos?
Alors, peut-être, mais j'ai envie d'élargir, parce qu'au-delà des propos, voulus ou pas voulus, gaffe ou pas, il y a quand même une volonté manifeste de Laurent Wauquiez d'être, un de vos auditeurs parlait de trumpiser, d'être sur une ligne de transgression absolue. Moi, je veux bien qu'on s'inspire du succès de Donald Trump aux États-Unis en se disant c'est comme ça qu'on peut gagner. Mais le système électoral en France n'est pas celui des États-Unis et jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, quand on est le chef d'un grand parti de gouvernement, qu'on veut réaliser 51% au second tour d'une élection présidentielle, on a plutôt intérêt, surtout auprès de l'électorat de la droite traditionnelle, on a plutôt intérêt à incarner une ligne, j'ai envie de dire, raisonnable, rassurante, conservatrice, pourquoi pas, mais plutôt rassurante. Et là où je rejoins Françoise Fressot, c'est que c'est vrai que Laurent Wauquiez, depuis des années, avait choisi une ligne sur le pouvoir d'achat, sur l'assistanat, il avait parlé de cancer de l'assistanat, il pouvait dire des choses très transgressives à l'époque, il avait choisi une ligne qui peut fonctionner, puisqu'on est en train de parler des sujets qui sont les sujets de préoccupation majeure des Français. En l'occurrence, il est en train de déserter ce territoire pour occuper un territoire qui est, oui, celui du BP Griot, du Trump, du Mélenchon, qui peut fonctionner pour un parti tribunicien, un parti anti-système, mais qui paraît très aléatoire comme stratégie pour le chef d'un grand parti de gouvernement qui, encore une fois, depuis qu'il était investi, eh bien, aurait eu de toute façon les micros qui se seraient tournés vers lui.
Jérôme Jaffray, c'est comme ça que fonctionnent nos institutions. Un grand parti est dirigé, en général, par le présidentiable. Donc c'est celui qui va au bout, qu'on porte jusqu'au bout. Est-ce que ça, c'est des propos de présidentiable? Est-ce que ça compromet? Alors, on en est loin, mais enfin, ils sont quand même tous déjà en train d'y penser. Est-ce que ça compromet cette image-là et cette idée-là, en fait?
On en est très loin, vous avez raison de le dire. On se serait vu, voyez-vous, vers 2005-2006, au lendemain des déclarations de Nicolas Sarkozy sur les racailles et le Karcher, on aurait tenu certainement Françoise Fressos et Gaël Slimane des propos très voisins pour nous expliquer que celui qui veut être président ne peut pas parler comme ça, on va vous débarrasser de la racaille, on va nettoyer au Karcher les cités, etc. Nicolas Sarkozy, il a été élu en 2007 et sans problème, finalement. Donc, les propos qui frappe. Là, actuellement, il y a quelque chose qui consiste à chercher à récupérer l'électorat du Front National. Mmh. C'est une bataille fondamentale pour la droite. Parce que Macron la serre complètement en prenant la partie libérale bourgeoise. Il y a plusieurs droites, Valérie Pécresse a entièrement raison de le dire. Il y a une droite libérale bourgeoise très importante. Cette droite libérale bourgeoise, elle trouve que ce que fait Emmanuel Macron, c'est très bien, mais très bien. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc, vous avez besoin de trouver sur d'autres thèmes de la nation, de la protection, du pouvoir d'achat et d'une façon de parler politique, quelque chose qui fasse que des électeurs qui étaient attirés en particulier par le Front National, 21% des voix au premier tour de la présidentielle, excusez de l'ampleur du gâteau qui a essayé de récupérer si Marine Le Pen s'effondre. Donc, je pense que malgré tout, quand Laurent Wauquiez tient des propos certainement tout à fait excessifs et qu'on peut vraiment juger comment peut-on tenir des propos pareils quand on est quelqu'un de raisonnable, mais derrière, je les assume, je suis un leader qui ose, ça, cette deuxième partie, elle vient un peu corrigé pour les Français la première en disant, ben celui-là, au moins on comprend ce qu'il dit, et puis il parle des autres comme... Mais il n'y a pas de différence entre ce que les autres disent en privé et lui, il le dit en public. Ma foi, ça a ses vertus. Donc, Wauquiez joue cette carte-là, en tout cas.
Et on parlait de proximité avec le programme du Front National. Justement, on est sur ce terrain-là avec vous, Romain, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y, Romain.
Alors, oui, moi en fait, ma question, c'est plus une réflexion qu'une question, j'ai effectivement rejoint un peu l'intervenant précédent, dans quelle mesure est-ce que la démarche de Wauquiez, qu'on connaît pas comme un homme de culture d'extrême droite, Laurent Wauquiez c'est un humaniste, c'est un littéraire, c'est un agrégé d'histoire, c'est pas un fasciste, mais est-ce qu'il n'y a pas une vraie volonté, une stratégie d'aller racketter les voix du FN, de faire le hold-up qu'avait fait Sarko en 2007, hein, pour aller effectivement prendre les voix du FN, puisque de toute façon, la droite traditionnelle est en admiration devant Macron, qui n'est ni de gauche ni de gauche. Il y a quelque part un moment où il faut se poser la vraie question de la vérité ou de la stratégie. Et pour moi, Wauquiez, c'est un menteur parfait. Il est dans une stratégie de conquête de pouvoir, il est prêt à tout, à les... draguer à l'extrême droite, s'il fallait se peindre en vert, il se peindrait en vert. Il est prêt à n'importe quoi pour gagner, y compris à renier les fondamentaux de sa famille politique. Il y a une droite sociale en France, il y a un gaullisme, ça a existé. Qu'en pensent vos intervenants?
Eh bien, on va leur demander ce qu'ils en pensent, nos intervenants. Merci beaucoup, Romain. François Fressos, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Il avance sur le pouvoir d'achat, il avance sur les retraites, il avance sur ce que vous appelez les petits. Et ça, c'est typiquement le terrain du Front National, pour le coup.
Oui, mais ça, de toute façon, il a sa stratégie. C'est d'ailleurs ce qui fait sa force. Mais en même temps, la stratégie est pratiquement obligée dans la mesure où Emmanuel Macron a siphonné tout ce qu'on appelle la droite libérale et modérée. Donc, il est sur ce créneau et il est obligé de récupérer de l'électorat Front National, c'est là qu'est sa réserve. Mais certains au parti, les Républicains, disent mais est-ce qu'il est obligé d'en faire autant pour les récupérer? Quand on voit l'état de Marine Le Pen, quand on voit la déconfiture de l'élection de Marine Le Pen, est-ce qu'il est obligé d'aller absolument sur ce terrain de ce que Juppé appelle la vulgarité pour aller reconquérir l'électorat FN? J'en suis pas sûre. Moi, ma théorie, c'est que ce qui s'est passé avec Macron, c'est-à-dire cette recomposition absolue du paysage politique, oblige chaque parti à se redéfinir profondément. On voit peut-être que la concurrence la plus forte, c'est peut-être pas Le Pen, mais c'est peut-être Marion Maréchal Le Pen qui, elle, la semaine dernière, a annoncé qu'elle faisait une sorte d'école de formation des cadres politiques pour, dit-elle, essayer d'unir un jour ce qu'elle appelle la droite enracinée et la droite entrepreneuriale.
Une espèce de Sciences Po Front National.
Et elle théorise en fait, en gros, qu'il faut gagner d'abord la bataille des idées pour ensuite remporter l'élection et que donc elle va se focaliser là-dessus. Et je pense que Wauquiez, lui, la difficulté, c'est que pour lui, d'arriver à rénover ce qu'il appelle cette droite sociale, cette droite populaire sur laquelle il est. Et je pense que, là encore, pour revenir à ce qui s'est passé devant les étudiants, je pense qu'il y a eu, une sortie de route parce qu'il manque encore du fond pour essayer de porter la contradiction à Emmanuel Macron et pour essayer de rassembler tous ceux effectivement qu'Emmanuel Macron risque de laisser de côté dans sa politique assez libérale, qui sont le monde rural, les retraités et les petites gens.
Estelle Schmitt.
Et justement, Emmanuel Macron a été samedi au Salon de l'Agriculture. Laurent Wauquiez y passe 2 jours. C'est pas pour rien. Pour justement, auprès de ce qu'il appelle les territoires oubliés, on voit bien que c'est vraiment le vocabulaire de Marine Le Pen. Il veut se poser en anti-Macron, c'est-à-dire, en gros, je les connais, alors que lui, il accuse Emmanuel Macron de leur avoir mal parlé. Il veut vraiment se positionner comme l'homme qui va vers ces territoires oubliés, que ce soit les suppressions de classe, que ce soit sur la CSG. Et c'est une vraie stratégie qu'il assume de A à Z.
Gaëlle Sliman, on parlait de Marine Le Pen à l'instant, ou peut-être de Marion Maréchal Le Pen. Est-ce qu'il faut éliminer Marine Le Pen du paysage?
Non, il ne faut pas éliminer Marine Le Pen du paysage. Aujourd'hui, auprès des sympathisants Front National, il n'y a pas photo, comme on dit, entre Laurent Wauquiez et elle. C'est pour ça que la stratégie consistant à dire, à partir du moment où Macron, ponctuellement, à un moment donné, en novembre-décembre dernier, un peu en janvier encore, séduit l'électorat de droite traditionnelle, je vais me déporter sur la droite, en plus en allant sur des thèmes immigration, insécurité, cette stratégie-là, elle est bien curieuse, parce qu'en réalité, Marine Le Pen, sur ces territoires de l'immigration et de l'insécurité, aux yeux de l'électorat de droite, non seulement du Front National, mais même de droite traditionnelle, paraîtra toujours plus forte, je ne vous refais pas l'histoire de l'original et de la copie, cher à Jean-Marie Le Pen, mais ce sentiment-là, il existe chez l'électorat de droite. Donc ça ne sert à rien, de mon point de vue, d'aller se déporter ainsi, alors qu'en même temps, l'électorat de droite et d'extrême droite, ses priorités, ce sont les mêmes que les priorités des Français. Ses principales priorités, ce sont des questions liées au pouvoir d'achat, liées à l'emploi, liées au chômage. Or, sur ces sujets-là, à force de déserter ce territoire en se disant de toute façon ce que fait Macron, c'est ce que nous aurions aimé faire, nous, la droite, à force de déserter ce territoire-là, eh bien, les électeurs de droite, dans notre dernier sondage, nous disent que finalement, Laurent Wauquiez, s'il était au pouvoir, eh bien, il ne ferait pas mieux qu'Emmanuel Macron, en matière de lutte contre le chômage, en matière de pouvoir d'achat. Et ça, c'est assez catastrophique pour lui.
Jérôme Jaffray, un mot ?
Oui, il me semble, si vous voulez, qu'à partir du moment où Emmanuel Macron a pris l'image du président des riches, ce que nous montrent tous les sondages, y compris ceux d'Odoxa, par exemple, de Gaëlle Sliman, il libère beaucoup de terrain pour
Classement
la droite.
Placement de produit.
Il libère beaucoup de terrain pour la droite, car la droite peut se permettre de ne plus être le parti des riches. Immense cadeau, en réalité, qui lui permet de viser un électorat beaucoup plus interclassiste que par le passé. Parce que la droite, elle était limitée, on l'a vu avec Fillon, à un vote des bourgeois et des retraités. Point final. Et Fillon, il a réussi l'exploit de faire 6-7% des voix chez les ouvriers et les employés de ce pays. Tout à l'heure, Françoise Fressos nous disait que Macron, il y avait tous les gens qui ne visaient pas, alors, le monde rural, les petites gens, etc. Ça fait 70 à 80% du pays, la définition de Françoise Fressos. C'est-à-dire un terrain immense à la vérité. Donc que Wauquiez veuille chercher un électorat beaucoup plus interclassiste, c'est le béaba. C'est le béaba et le thème du pouvoir d'achat est un thème important. Alors, effectivement, l'affaire lyonnaise tue sa campagne qui était assez brillante. Avec Macron, c'est vous qui payez l'addition. Les tracts étaient assez bien faits. Ils prenaient quatre couples en disant, ben voilà, voilà ce qu'ils font et voilà le bilan pour cette année. Ils baissent en termes de soldes de fin d'année alors qu'on leur avait promis la baisse des impôts, l'amélioration du pouvoir d'achat, etc. C'était destroy. L'affaire lyonnaise, effectivement, tue ça, mais ça va revenir. Faut pas penser que des choses pareilles resteront. Le thème du pouvoir d'achat permet à Macron de dire les réformes économiques, c'est une chose, parce que le deuxième cadeau que Macron fait à la droite, c'est de faire les réformes que la droite est incapable de faire. Si on réforme la fonction publique, la SNCF, le code du travail et compagnie, mais c'est tout ce que la droite n'a plus besoin de faire si elle revient au pouvoir. Donc elle peut parler aux petites gens, au monde rural, à la France des oubliés, et elle peut s'en occuper. Voilà la différence.
Françoise Fressos qui a très poliment levé le doigt.
Oui, mais avec une difficulté quand même, c'est que pour s'occuper de ce qu'on appelle tous ces Français qui souffrent, jusqu'où est-ce qu'ils vont être obligés, Laurent Wauquiez va être obligé de remettre en cause la doctrine libérale. Et en fait, c'est très intéressant parce que actuellement, par exemple, il y a Guillaume Pelletier qui est dans la direction de LR qui dit face aux déserts médicaux, maintenant on peut plus rester les bras ballants et il faut par exemple imposer aux étudiants en médecine qui terminent leurs études de passer 1 ou 2 ans dans ces zones désertifiées. Évidemment, l'aile libérale hurle en disant « mais ça va pas, on va se mettre à dos les médecins ». Et je pense que quand vous arrivez au fond du fond, c'est-à-dire comment vous récupérez l'électorat populaire, est-ce que vous allez être obligé, comme Marine Le Pen l'a fait, d'un peu socialiser votre projet et au fond d'abandonner ce qu'a fait quand même la doctrine du Parti républicain depuis les 10 dernières années, c'est le libéralisme. Et on sent bien que Laurent Wauquiez, il n'est pas encore entré dans le vif du sujet de jusqu'où on remet en cause la doctrine passée et comment on refonde une nouvelle doctrine. Et donc, il ne suffit pas de dire pouvoir d'achat, il faut aussi avoir des propositions très concrètes, et ils en sont qu'au début de la réflexion là-dessus.
Et Laurent Wauquiez n'a pas tranché, puisque le numéro 2 du parti est ultralibéral, le numéro 3, Guillaume Pelletier, vous l'avez dit, est tout le contraire.
Exactement.
Et ce qu'il place en position arbitrale, ce qui est toujours excellent pour un président de parti, mon numéro 2 est ultralibéral, mon numéro 3 est ultradirigiste, je campe donc la synthèse.
Et où est-ce qu'on met Valérie Pécresse là-dedans? Est-ce qu'au bout du compte, elle finit par partir, Valérie Pécresse? Comment elle se situe dans cette histoire-là, Gaëlle Sliman?
Le paradoxe en termes d'opinion, puisque c'est de ce point de vue dont je parle, le paradoxe, c'est que Laurent Wauquiez, en perdant ses points depuis 4 mois, y compris auprès de son propre camp, est moins populaire que Valérie Pécresse, moins populaire que Nicolas Sarkozy, moins populaire, il arrive en 6e position auprès des sympathisants de son propre camp. Mais ceux qui pourraient lui voler la première place n'ont pas osé l'affronter, n'ont pas été au combat. Donc il a au moins, on m'entendra au moins dire une chose positive ce soir sur sa stratégie, il a au moins un avantage, c'est qu'il y est allé, lui. Et donc Valérie Pécresse, elle a refusé la bataille, comme Xavier Bertrand a refusé la bataille. Donc ils ont beau aujourd'hui être plus populaires que lui et se positionner en quelque sorte en recours de droite, ils ne sont pas allés au combat. Et donc ça vous disqualifie largement pour l'avenir politique.
Bonsoir Dominique.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y Dominique.
Merci, bah, écoutez, tout a été dit 100 fois et 100 fois mieux que par moi, mais je pense que si la droite est anéantie et si Wauquiez en est réduit à ses billevesées, c'est parce que Macron lui a scié la broche. Ses réformes sont libérales, tant sur le plan économique que social et sur le plan des valeurs, et ils peuvent plus, ils n'ont plus d'endroit. La politique de Macron a dévasté complètement la droite. Voilà, ils n'ont plus d'endroit. Macron fait ce que Sarkozy n'a pas osé faire, comme vous l'avez déjà dit 100 fois.
Merci beaucoup pour cette question, j'allais dire pour cette remarque surtout, Dominique, Françoise Fressos. Effectivement, l'entonnoir est tellement rétréci, en gros, qu'il faut en arriver à ses extrémités, c'est ce que vous disiez
oui,
tout à l'heure.
Oui, et d'autant que la théorie d'Emmanuel Macron, c'est que la recomposition politique, elle n'est pas encore achevée, elle n'est pas aboutie. Et donc, il va essayer tout au long de son quinquennat de continuer à enfoncer le clou dans cette partie de la droite. Alors, Valérie Pécresse, c'est vrai qu'elle n'a pas osé affronter Laurent Wauquiez, mais elle reste un peu en position de repli dans le parti, en se disant si jamais...
Repli, c'est recours aussi, c'est ça que ça veut dire ?
En tout cas, c'est de dire il reste quand même une partie de la droite qui n'a pas été complètement macronisée et que si jamais ça se passe mal un jour pour Macron, on aura peut-être ce moule de résistance. Mais on voit bien qu'aux européennes et aux municipales, Macron va tout faire pour continuer à déstabiliser la droite et récupérer autant que possible toute l'aile sociale libérale, en fait.
Jérôme Jaffray, elle n'est pas finie, effectivement, la dégringolade, j'allais dire.
En tout cas, tout ça oblige évidemment la droite à se repenser. Alors, il est vrai qu'il y a du travail et il est loin d'être mené, mais on voit bien qu'il y a des thèmes sur lesquels la différenciation se fera. Alors, ce n'est pas effectivement sur la réforme de la SNCF que la droite a été incapable de faire quand elle était au pouvoir. Là, les oreilles d'Alain Juppé commencent à siffler sans doute, et sa sortie du jour peut-être vise aussi à faire oublier le sujet SNCF, ça c'est soit dit en passant. Mais vous avez des thèmes entre la conception de l'Europe, par exemple, la conception de la nation. Pour les élections européennes de l'année prochaine, c'est quelque chose de fondamental. Alors, la question de savoir qui sera le tête de liste des Républicains est une question évidemment majeure, puisque Laurent Wauquiez refuse. Le programme, on le voit bien, refus de tout élargissement, refus d'aller vers le fédéralisme, c'est une Europe qui s'occupe finalement de gérer économiquement le continent en luttant contre les grands, la Chine, les États-Unis, pour que l'Europe existe. Ça, c'est le thème que cette droite-là peut tenir. Il y a la crainte de des vagues migratoires, qui est un thème absolument majeur pour la droite, qui peut réunir le Front National, son électorat et la droite, en considérant que finalement Macron est quand même porteur de valeurs universelles, multiculturaliste au fond de lui-même, et qu'il y a là une vraie différence qui se fait. Il y a le mode de vie et la culture. Donc, cette droite des valeurs peut estimer, alors son héros c'est Blanquer, mais c'est pas un hasard s'il y a l'émission politique, Laurent Wauquiez, c'est le seul ministre à qui il a rendu hommage, c'est Jean-Michel Blanquer, en considérant qu'il faisait lui le bon travail, parce que c'est le bon travail de la culture et des valeurs. Tout ça, c'est ces thèmes. Ils sont pas exactement les mêmes que Macron. Ils permettent de sortir un peu de l'économie où effectivement il a pas beaucoup d'espace pour s'exprimer. C'est un calcul de long terme. La grande difficulté, je trouve, c'est que le premier scrutin qui arrive, c'est les européennes, et que c'est un scrutin redoutablement difficile pour les Républicains tels qu'ils sont devenus. Entre les vrais anti-européens, Gaël Sliman a raison, là, le Front National a quand même existe sur ce terrain depuis très longtemps, et puis les pro-européens macronistes, où ils vont essayer de rallier les jupéistes, par exemple, c'est la crainte pour les Républicains, c'est d'être écrasé, à partir du moment en plus où Wauquiez n'ose pas, lui, cette fois-ci, se lancer dans la bataille.
Attendez, vous avez évoqué l'immigration un instant sur la fameuse loi asile et immigration. Est-ce que la droite en dira et en dit aujourd'hui? C'est quoi la différence réelle entre Laurent Wauquiez et ce que dit le Front National, Gaël Sliman?
Sur les différents sujets qui touchent à l'immigration, le sentiment des Français, c'est que la droite est sur une position qui est plus légitime que ne l'est Emmanuel Macron. C'est un petit peu ce que disait Jérôme Jaffray il y a un instant. Quand on interroge les Français sur les questions liées à l'immigration, ils estiment que là-dessus, Laurent Wauquiez peut faire mieux qu'Emmanuel Macron, et particulièrement chez les sympathisants de droite, parce qu'on préfère l'original à la copie de ce point de vue-là aussi.
Bonsoir Mathieu.
Oui, bonsoir à tous.
Et soyez le bienvenu, on vous écoute.
Je vous remercie. Alors je voulais réagir parce que j'ai l'impression qu'on cantonne le débat de la droite à uniquement Laurent Wauquiez et Marine Le Pen. Or, il existe des alternatives tout à fait crédibles, je pense notamment à Debout la France avec Dupont-Aignan, et puis maintenant aussi Philippot qui commence à arriver avec son parti Les Patriotes. Et du coup, moi ça me désole un peu qu'on parle systématiquement des Républicains, qui d'ailleurs se privent pas de piocher un peu partout, et Monsieur Wauquiez qui va là où le vent le porte, on va dire, et à Madame Le Pen, alors qu'il y a des choses tout à fait bien à voir ailleurs.
Merci pour votre question, Mathieu. Jérôme Jaffray, je vous voyais réagir. Est-ce que ça pèse? Alors, Debout la France, c'est une chose. Commençons par lui.
Écoutez, la vérité, c'est que les élections européennes, là, vont être le juge-arbitre des ambitions de Debout la France et des ambitions des patriotes de Florian Philippot. Ce sont des formations souverainistes qui mettent en avant ces thèmes-là très fortement. Il faut faire le Frexit. C'est le grand thème. Philippot et Nicolas Dupont-Aignan le partagent assez largement. Le moment de vérité va arriver. Reste que les Français ont quand même besoin de grands partis. Donc, ou bien il y a des alliances dans lesquelles s'inclut Debout la France, les Patriotes, mais je ne vois pas l'intérêt pour Laurent Wauquiez de donner une place à des petites formations à côté de lui. Il a plutôt intérêt à développer les Républicains
et essayer
de manger l'électorat du Front National. Quand il aura mangé l'électorat du Front National, en partie, enfin évidemment, il en restera toujours, mais s'il prend 5, 6, 7 points au Front National, le tiers de l'influence du FN, la donne politique française change. Parce que ce que nous ont montré les législateurs partielle, c'est qu'au second tour de scrutin, les électeurs de gauche n'ont aucune envie de voter pour La République En Marche. Et ça, c'est une information capitale pour la stratégie des acteurs. À partir du moment où vous auriez un affrontement La République En Marche contre les Républicains, et premier parti d'opposition, les Républicains, si la gauche ne décide au second tour de pas se mêler, de pas aider Monsieur Macron et les candidats de la République En Marche, vous avez une situation où à ce moment-là, c'est l'apport des voix du Front National au second tour qui va vers les Républicains, qui fait la décision. Tout ça, les acteurs politiques, ils ont ça en tête dans leur stratégie aujourd'hui.
Françoise Fressos,
Dupont-Aignan et Philippot, je pense qu'il ne faut pas les mésestimer dans la mesure où on sent aussi que Marine Le Pen est un peu en train de changer de stratégie, c'est-à-dire que maintenant elle reconnaît ouvertement que si le Front National un jour veut revenir au pouvoir, il faudra s'allier. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle veut changer au prochain congrès, proposer le changement du nom du Front National. Et donc elle reste un peu sur l'idée de peut-être qu'un jour je pourrais m'allier avec Dupont-Aignan.
Mais est-ce que Dupont-Aignan ferait cet aller-retour ? Est-ce que ça avait quand même été un tour vers le FN, un retour après derrière pendant les présidentielles ? Tout ça n'était pas d'une clarté limpide.
Il peut y avoir des allers-retours, mais en tout cas ce qui est intéressant, c'est de voir que du côté du FN, en tout cas, on cherche des alliances, on met un peu un terme à cette stratégie qui était on va y arriver tout seul. Et donc il y a un paysage de droite qui est en pleine mutation et qui est intéressant à observer pour ça, parce que Laurent Wauquiez essaye de récupérer du FN et Marine Le Pen essaye de résister en disant je peux incarner un jour l'alternative avec des alliances, tout ça sur un fond quand même de montée du populisme partout en Europe, et donc il y a quand même un terreau porteur si jamais Emmanuel Macron échoue d'alliances populistes.
C'est pour ça qu'on regarde ce qui va se passer en Italie notamment dimanche prochain avec beaucoup d'intérêt. Les patriotes, ça prend, ça monte, il se passe quelque chose autour de Florian Philippot ou pas ?
C'est difficile à dire parce que il annonce des chiffres et puis quand on regarde la réalité des salles, c'est pas vraiment ça. Donc je pense qu'il faudra regarder aux élections, aux européennes, s'il arrive à avoir des candidats et à faire un score.
Il y a eu la réalité des urnes, hein, aux législatives partielles, 1% dans une circonscription, 2% dans l'autre. C'est évidemment des scores microscopiques. Aux européennes, il faudra 5% des voix pour des listes nationales pour obtenir des sièges. C'est très haut. Dupont-Aignan a les moyens, je pense, de passer ce score de 5% aux européennes, c'est son ambition. Pour Florian Philippot, ça paraît très très difficile.
Gaël Simon, vous avez commencé à compter ça, vous ou pas, chez Odoxa, notamment
non,
les Patriotes.
Alors les Patriotes, c'est trop petit pour être compté pour le moment. Moi, je suis quand même frappé de voir que on a une ventilation façon puzzle, pour citer des vieux films célèbres, une morcellisation complète d'un créneau politique qui reste un créneau minoritaire en France, qui perd aux élections, qui est ce créneau de la droite ultra, de l'extrême droite, si vous prenez, ou de la droite conservatrice, si vous prenez Debout la France, si vous prenez Philippot, si vous prenez le Front National, et si vous ajoutez même la couleur qui est en train d'imprimer Laurent Wauquiez aux Républicains, ça fait quand même beaucoup de monde pour un tout petit marigot.
Et ce sera la conclusion de ce soir. Je vous vois faire comme ça, Jérôme Jaffray, non ? Tout dernier mot.
Faut pas exagérer quand même. Pour Philippot, Dupont-Aignan, oui. Marine Le Pen, on l'a dit tout à l'heure, c'est une force. Et Laurent Wauquiez, les Républicains, c'est la première force d'opposition. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a personne dans ce marigot.
Que ce territoire-là, en particulier, n'est pas celui qui vous fait élire au second tour d'une présidentielle.
Et le voilà, le mot de la fin. Merci à tous. Merci d'avoir participé au téléphone Fonson. Merci pour toutes vos questions. Portez-vous bien.